Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
Radio Stable.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, dans Un jour dans le monde, retour en Irak, après ce procès incroyable auquel on a assisté hier, une femme, une Française, dans le box des accusés, condamnée à 20 ans de prison, une demi-journée à peine de procès et de délibéré, une jeune femme qui était partie pour l'Irak rejoindre l'État islamique. L'occasion pour nous de parler justice internationale, de droit international. Qui peut juger ? Y a-t-il des pays plus compétents que d'autres ou moins compétents ? Questions et réponses dans un instant. Ce soir aussi, Frédéric Mettezo, sous les radars, nous emmène en Slovénie qui suit le chemin de bien des pays d'Europe, à Gaza aussi qui a une nouvelle icône et à Vegas et sa patinoire de hockey. 18h50, Le Monde selon Trump, saison 2 et Grégory Phillips qui paye l'hôtel de Kim Jong-un à Singapour. Où est Melania Trump parmi les questions du jour ? 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four et la question des migrants en Europe reposée donc par l'Italie. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de poser la question à l'envers comme souvent ? Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Ce soir donc dans Un jour dans le monde, retour sur une photo qui marque le week-end, celle de cette Française, Mélina Bouguedir, condamnée à 20 ans de prison en Irak pour terrorisme. On a beaucoup parlé de ce procès ce week-end, on y reviendra un petit peu pour vous remettre un peu tout ça dans le contexte, mais il pose surtout de multiples questions. Il nous interroge tous sur le fonctionnement de la justice de guerre, sur la justice en période de terrorisme, sur la justice internationale, sur les tribunaux en temps de guerre aussi. C'est pour ça qu'on a eu envie d'entendre Philippe Sands, qui est avocat spécialiste de justice internationale. On va vous retrouver dans un instant, Monsieur Sands. Avant de vous parler, allons à Bagdad, retrouver d'abord Sophie Parmentier. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Vous avez suivi ce procès pour nous, pour France Inter. Sophie, je voudrais d'abord que vous nous remettiez un petit peu dans le contexte, que vous nous rameniez à ce qui s'est passé, à ce qui s'est passé très vite d'ailleurs. À quoi a ressemblé ce moment qu'on a tous vécu hier ?
Ce procès s'est tenu hier matin dans une salle d'audience à la moquette gris-beige couverte d'un grand tapis oriental, avec d'un côté le bureau de trois juges moustachus en cravate et robe de magistrat gancés de blanc, de l'autre côté un procureur en habit noir et rouge, et en face quatre avocats, l'un irakien en robe noire et verte, épaulé par trois avocats parisiens, Maître Bourdon, Brengart et Pradel, qui avaient fait le déplacement à Bagdad ce week-end pour ce procès de Mélina Bouguedir. Mélina Bouguedir a été jugée debout, enfermée dans une effrayante cage de bois presque aussi haute qu'elle. La cage était posée à un mètre à peine du premier rang où je me trouvais, et l'image assez difficile à soutenir, eh bien c'était la vision de la petite fille de Mélina Bouguedir, un bébé de 16 mois en short rose, une enfant qui babillait et ouvrait de grands yeux hagards sur les nombreux policiers et journalistes présents pour ce procès qui n'a duré en fait que 50 minutes. Alors une grosse demi-heure de questions du juge en chef, qui a surtout demandé à la jeune Française pourquoi elle souriait sur les photos où elle avait l'air épanouie à Mossoul, entourée de ses quatre enfants. Eh bien, c'est juste parce que j'étais heureuse avec mes enfants. Je venais d'accoucher du bébé, s'est-elle justifiée sans convaincre le tribunal, qui n'avait hier sur son bureau qu'un dossier d'instruction très mince, dans de gros classeurs d'écoliers, certains recouverts d'un papier doré brillant. Les juges ont aussi demandé à Mélina Bouguedir pourquoi elle s'était rendue en Irak. Elle a affirmé que c'était pour suivre son mari, qu'il l'avait forcé. Ils lui ont demandé si elle avait soutenu Daesh. Elle a juste reconnu que son mari, Maximilien Thibault, aujourd'hui présumé mort, avait reçu un salaire de l'État islamique, mais selon elle, il n'aurait jamais combattu. Et quand l'un de ses avocats français, Maître Bourdon, a demandé à Mélina Bouguedir si elle condamnait tous les crimes de Daesh, eh bien, elle a affirmé que oui, sans convaincre donc les juges irakiens, qui l'ont condamnée à 20 ans de prison hier, une peine qu'elle a entendue sans comprendre, réellement très sonnée.
Une question, Sophie, on reviendra sur le déroulé de ce procès, sur ce que vous avez vu. J'ai une curiosité. Vous avez pu la rencontrer, Mélina Bouguedir, après. Dans quel état elle est ? Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Qu'est-ce qu'elle vous raconte ? Qu'est-ce qu'elle comprend, surtout ?
Alors, on l'a vu, en effet, juste avant au moment du procès, elle est apparue assez stoïque, en fait, au centre de sa cage de bois, avec la tête couverte d'un voile à grosse fleur mauve sur sa frêle silhouette, avec sa petite fille, donc, blottie contre elle. Et puis, après le verdict qui a été rendu en quelques minutes, nous avons parlé un instant avec elle au bout d'un corridor, dans une cellule à gros barreaux de fer. Et là, Mélina Bouguedir a répété plusieurs fois qu'elle ne comprenait pas cette peine sévère. Elle a pleuré aussi en parlant de ses trois aînés, ses trois enfants de 4, 6 et 7 ans qui ont été rapatriés en France en décembre dernier et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. À sa demande d'ailleurs, elle nous a dit que sa famille lui manquait, que c'était vraiment dur pour elle de ne pas avoir de nouvelles de ses trois aînés, qu'elle ne voulait pas qu'on lui prenne son bébé qu'elle allait encore dans sa cellule de Bagdad. Elle est dans une prison avec d'autres femmes. Elle est bien traitée, a-t-elle précisé. En tout cas, ses avocats français l'ont incitée à faire appel au plus vite, sachant qu'il y a 4 mois, il faut insister là-dessus, elle avait été jugée lors d'un premier procès et condamnée à seulement 7 mois de prison.
Voilà, c'est effectivement une deuxième fois. Sophie, vous allez revenir nous expliquer un petit peu comment fonctionne cette justice à Bagdad. Et à côté de vous, Edith Bouvier aussi, qui a écrit Un parfum de djihad et qui connaît un certain nombre de ces jeunes femmes-là et qui pourra intervenir. Bonsoir Philippe Sand.
Bonsoir de Londres, je suis très content d'être avec vous.
Eh bien, bonsoir de Londres à vous aussi et merci d'être là. Philippe Sands, vous êtes l'avocat international qu'on connaît. Moi, j'aimerais bien avoir votre regard d'abord sur cette journée, sur la photo de la manière dont la justice a été rendue. L'avocat que vous êtes réagit comment ?
Ben, j'ai vu la photo et bien sûr, au niveau humain, on réagit avec une certaine tendresse. Mais c'est une situation assez complexe et je dois avouer que j'ai travaillé maintenant depuis 3 ans dans l'affaire de certaines jeunes femmes yazidis qui ont été très mal traitées, pas par le mari de cette jeune française, mais par d'autres du Daesh. Et je vois un peu aussi la perspective de l'autre côté. Il y a évidemment un très grand problème. Des crimes ont été commis. Et le problème pour cette jeune française, c'est qu'elle était en Irak. Étant en Irak, elle est soumise à la justice irakienne et l'Irak a le droit en fait d'appliquer son droit et de juger. Je dis pas du tout que le procès qui a duré apparemment 50 minutes, c'est déjà 40 minutes plus que beaucoup d'autres procès, parce que de ce que j'ai compris, il y a des procès qui sont de 5 minutes suivis par la peine de mort. Alors il y a déjà un résultat qui est moins catastrophique que d'autres résultats. C'est évident qu'il y a un problème avec la justice en Irak, mais aussi il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'elle faisait en Irak? Est-ce qu'elle était associée? Comment est-elle associée? Et je pense qu'on a besoin, comme les juges auront dû avoir, beaucoup plus de faits.
Mais alors, Philippe Sands, parce que cette question, évidemment, qu'elle se pose, et d'ailleurs même les juges français ont envie de la poser, puisqu'il y a même un juge d'instruction qui suit le même cas, l'histoire de Milena Bouguédir. Donc sur le fond, il n'y a pas photo là-dessus, mais sur la forme, est-ce qu'on peut dire que, et sans se tromper, que justice peut être convenablement rendu dans un pays comme l'Irak aujourd'hui ou pas?
Non, c'est clair qu'il y a un problème. En droit international, si on parle de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité ou génocide, il y a une compétence universelle. Ça veut dire que l'Irak peut juger, la France peut juger parce qu'elle est française, mais aussi tout autre pays dans le monde, en principe, s'il attrape cette personne, peut aussi juger. Et il y a aussi une autre possibilité, c'est la justice internationale, Cour pénale internationale peut-être à La Haye, ou un tribunal, il parle un peu de ça pour l'Irak, créé spécialement pour cette situation. Alors il y a plein de situations différentes. À vrai dire, j'ai suivi plusieurs de ces procès, pas celle de Melina, et c'est clair qu'il y a un problème, mais il y a pour les Irakiens aussi un problème. Ils ont attrapé des milliers, des milliers de personnes. Ils savent pas exactement quel était le rôle de chaque personne, les hommes, mais aussi les femmes. Et ils ont un problème politique interne. Et c'est d'équilibrer ces deux aspects.
Mais est-ce qu'on pardonnez-moi, Monsieur Sans, est-ce qu'on a le droit, nous, autorités françaises, alors pour l'instant c'est l'inverse qu'on dit, j'ai bien compris, mais est-ce qu'on a le droit de toute façon, nous, de dire à un pays souverain, même si en grande difficulté comme l'Irak, votre justice n'est pas assez au point, vous n'êtes pas en mesure de juger ces gens-là. De toute façon, est-ce qu'on peut prononcer ces phrases-là ou pas?
Tout à fait. La France a absolument le droit de se poser la question, est-ce que les normes de justice qui ont été appliquées dans cette affaire et dans d'autres affaires sont au standard minimum international? Évidemment, il y a prima facie un problème avec ce qui s'est passé, et je pense que la France a non seulement le droit, mais une obligation de se poser la question, parce que la France, là, est face à une situation d'avoir un de ses propres nationaux devant un tribunal. Alors, dans cette situation, la France n'a seulement n'a pas seulement le droit de poser la question, mais à mon avis, l'obligation de poser est-ce que les standards qui ont été appliqués sont au niveau minimum international.
L'avocat que vous êtes, en voyant ça, pense que ces standards ont été respectés. Je vous pose la question parce qu'on a tous entendu Jean-Yves Le Drian ce week-end en France, disant que l'Irak avait parfaitement le droit de juger correctement cette femme-là et ces femmes-là, d'ailleurs, parce que des cas comme celui-là, il y en a déjà eu un autre, il y en aura probablement d'autres. Donc, on a aussi le sentiment derrière qu'il y a des considérations qui jouent, qui vont bien plus loin finalement que le bien rendu du droit, non ?
Je pense qu'à long terme, la France, comme tout pays, a un intérêt à s'assurer que la justice qui est menée en Irak est au niveau des standards internationaux minimum. Il a raison que l'Irak a le droit de juger, mais ce procès n'est pas encore fini. Il y aura un appel. La France doit attendre que l'appel soit terminé et on verra un peu où ça va aller. Mais prima facie, il y a un problème.
Il y a un problème et on verra aussi dans un instant, Philippe Sens, grâce à Sophie Parmentier, on verra dans un instant comment effectivement les choses se déroulent lors de ce procès, surtout ce qu'on dit aussi, ce que disent les autorités de Bagdad et la justice de Bagdad qui évidemment aussi a entendu les critiques qui pourraient être faites. Est-ce qu'on a Sophie Parmentier avec nous ?
Vous m'entendez, Fabien ?
Moi, je vous entends, Sophie, parce que j'aimerais bien que vous.
C'est parfait.
J'aimerais bien que vous puissiez nous emmener un petit peu plus en avant, justement, quand on remet en cause la manière dont les jugements et verdicts peuvent être rendus. Qu'est-ce qu'on entend ? Comment on discute de ça ? On dispute ça même dans cette justice irakienne ?
Alors, nous nous sommes rendus ces derniers jours dans l'un des sièges de la justice fédérale à Bagdad, dans le bureau de marbre du juge Abdul Sattar Bayragdar, qui est à la fois le porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature en Irak et aussi le porte-parole de la Cour pénale centrale de Bagdad, qui a jugé hier Mélina Bouguedir. Et le juge Bayragdar, costume, cravate rose et gris, petit chapelet musulman à la main, nous indique d'abord que la justice en Irak est la même pour tous.
En Irak, la loi est la même pour les Irakiens et les étrangers. C'est le cas pour toutes les lois, pas seulement pour les lois antiterroristes. Que vous soyez irakien ou occidental, si vous commettez un crime en Irak, vous risquez un procès.
Et en cas d'activité terroriste, en cas de soutien de Daesh, la peine de mort est encourue pour les étrangers comme pour les Irakiens dans un pays qui est, vous le savez, traumatisé depuis des années par le terrorisme avec des attentats suicides qui ont pu être quotidiens à une époque. Alors Mélina Bouguedir risquait la peine de mort hier, mais le juge Bayragdar nous a bien expliqué que la France avait exprimé son souhait de ne pas la condamner à la peine capitale. Un souhait, pas un ordre, précise le juge irakien qui refuse de parler de pression de Paris. Le magistrat insiste en tout cas sur la souveraineté de l'Irak. Il martèle aussi qu'il faut juger ces djihadistes très sévèrement, pas par revanche, dit-il, mais pour donner l'exemple.
En Irak, la loi est la même pour les Irakiens et les étrangers. C'est le cas pour toutes les lois, pas seulement pour les lois antiterroristes. Que vous soyez irakien ou occidental, si vous commettez un crime en Irak, vous risquez un procès. Moi, en tant que juge, ce qui m'importe, c'est de faire appliquer la loi. Et pour que cette loi s'applique, il faut que ceux qui ont fait couler le sang irakien soient punis. Ces punitions doivent être un exemple pour les autres, pour tous ceux qui penseraient à faire la même chose. Pour nous, en Irak, l'État islamique, c'est quasiment fini. Mais je pense que certains aimeraient rentrer dans leur pays. Et si nos verdicts n'étaient pas sévères, alors ils se croiraient tout permis.
Et au ministère de l'Intérieur, autre bâtiment ultra sécurisé de Bagdad, protégé par de multiples checkpoints avec des hommes armés de kalachnikov en bandoulière, le bas du visage parfois caché par un foulard noir. Le général Saad Man, qui est le porte-parole du ministère, nous explique à quel point cette sévérité lui semble aussi cruciale. Quand ces hommes ont arrêté des djihadistes présumés à Mossoul l'été dernier, eh bien, ils les ont d'abord accusés et puis seulement l'enquête a commencé. Ces enquêtes sont menées par les forces spéciales, les CTS, qui font seuls les interrogatoires jusqu'au procès. Mélina Bouguedir n'avait ainsi pas rencontré de juge d'instruction avant son procès plié en 50 minutes hier. Vous savez, au fil de l'enquête, en fait, les preuves qu'amassent les policiers antiterroristes reposent beaucoup ici sur des témoignages, également sur des preuves matérielles, bien sûr, comme des images saisies dans un téléphone. Et dans le cas de Mélina Bouguedir, eh bien, les juges irakiens se sont surtout appuyés hier sur les photos où on la voit sourire en famille, sourire jugé coupable et presque suffisant pour la juger pour terrorisme.
Merci beaucoup Sophie, on va revenir vers vous dans un instant. Philippe Sands, quand j'entends ce que nous raconte Sophie Parmentier, je retiens cette phrase: la France a exprimé son souhait de ne pas condamner à la peine capitale, un souhait mais pas un ordre. C'est quand même un drôle de truc à entendre, on parle de justice.
On parle de justice, il y a un droit de défense, cette jeune femme a un droit de défense minimum et apparemment on peut pas faire un procès de 50 minutes et juger quelqu'un pour 3 ou 4 photos. Il y a, comme je l'ai dit avant, un problème. Mais c'est clair aussi, j'ai suivi plusieurs de ces procès, il y a des centaines de femmes irakiennes qui ont eu des procès de 5 ou 6 minutes et qui sont condamnées à mort 10 minutes plus tard. Déjà, il y a une différence qui s'est appliquée, et j'ai l'impression, c'est une impression que j'ai, que l'intervention de la France, du ministre de l'Affaires étrangères, a quand même eu un effet dans cette affaire.
Est-ce que on est dans une situation intégralement inédite, une configuration complètement inédite, Philippe Sands? On a déjà vu ça?
Non, on a vu ce genre de truc auparavant. Si on veut voir un peu comment ça marche aux justices internationales, on commence avec le procès de Nuremberg, qui date de 45-46. Après, procès de Tokyo. Après, on a attendu 50 ans pour l'Yougoslavie et le Rwanda. Et dans l'Yougoslavie et le Rwanda, on a vu des procès nationaux. Absolument égal. J'ai jamais vu un procès de 50 minutes. Ouais. J'ai jamais vu une femme condamnée parce qu'elle souriait dans 2 ou 3 photos. Ça, c'est nouveau et c'est problématique. Mais le principe de juger très vite, sans respecter les droits de la défense, malheureusement, on le voit partout.
Vous, c'est des choses. Alors, Nuremberg, n'en parlons pas. Vous avez écrit un livre. Vous êtes venu chez nous d'ailleurs pour nous en parler là-dessus. Le tribunal pénal international. Vous aussi, vous connaissez de très 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 près. Est-ce que c'est ça qu'il faudrait, cela dit? Est-ce que la meilleure solution, finalement, selon vous, ce serait celle-là? Ce serait que toutes ces femmes-là et les hommes aussi, d'ailleurs, soient à un moment jugés dans une autre structure.
En fait, je viens de finir un film pour Arte et ARD sur l'histoire de deux jeunes femmes yazidis qui ont été attrapées par Daesh pendant un an, violées 500, 600 fois pendant un an. Et avec leur psychologue, un Allemand, le docteur Jan Kisilhan, on est en train de trouver pour eux la justice. Et notre premier porte, c'est la justice internationale. Pourquoi ? Parce que devant la Cour pénale internationale, il y aura ça sera plus légitime. Ça, c'est absolument clair. On est allé à La Haye, on le voit dans le film qui va jouer dans 2-3 semaines. La Cour pénale internationale, un procureur nous a dit non, les gens que vous avez trouvés ne sont pas assez importants pour nous. On veut seulement les grands, les importants. Alors là, il y a un problème dans la justice internationale.
Et en tout cas, on aura plaisir à le voir, votre film, Philippe Sands, et à suivre aussi, de toute façon, ce qui va se passer avec d'autres. Merci beaucoup de votre présence dans Un jour dans le monde avec d'autres. Et bonsoir à vous, Edith Bouvier.
Bonsoir.
Aux côtés de Sophie Parmentier, en ce moment à Bagdad, vous avez coécrit, Edith, Un parfum de djihad. C'est édité chez Plon, qui sont ces Françaises qui ont rejoint une organisation terroriste. Et si on a eu envie de vous parler, Edith, c'est parce que Mélina Bouguédir, d'une certaine façon, elle est dans le profil type de la Française partie rejoindre l'Irak ou la Syrie d'ailleurs, dans ce qu'elle est et aussi dans sa défense finalement. Je ne savais pas, j'ai suivi mon mari.
Effectivement, c'est une défense qu'on a beaucoup entendue lors des procès en France. Une défense qui ne tient plus parce que quand même les 3/4 de ces femmes ont fait un choix qui leur porte préjudice aujourd'hui, un choix qui est une énorme erreur, parfois très grave, de rejoindre une organisation terroriste.
Erreur qu'elles reconnaissent parfois, Edith, d'ailleurs. Parfois, elles le reconnaissent.
Parfois,
elles sont aussi capables de le dire.
Parfois, mais rarement. Là, en l'occurrence, Mélina est une suiveuse. C'est un peu le profil avec Céline Martelet, la co-auteure. On a pu lui parler quand elle était encore dans Mossoul, dans le siège. Et on avait un petit peu compris que cette jeune femme, effectivement, comme elle le raconte, n'a pas été vraiment contrainte, mais est une suiveuse. Quand son mari lui a dit, après qu'il ait été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis pour son appartenance au groupe Forza Analiza, il faut qu'on parte, il faut qu'on vive le vrai islam, comme il le disait lui-même. Elle l'a suivi avec leurs 3 enfants à l'époque. Elle a fait le choix d'aller vivre dans un pays en guerre. Et c'est peut-être ça le trait commun de toutes ces femmes. C'est cette énorme erreur. Parce que sinon, c'est difficile à définir qui elles sont. Et parce qu'en fait, elles viennent de tous les milieux, il y a tous les profils.
Est-ce qu'elles savent, Edith, est-ce qu'elles savent qu'elles seront jugées là, désormais, maintenant, en fait, qu'elles seront jugées là où elles sont, c'est-à-dire là, en l'occurrence, en Irak, que, évidemment, la prison est au bout du chemin, mais de manière extrêmement sévère. Est-ce que c'est des choses qui circulent, ça, et qui, du coup, font peur, plus peur?
Alors, c'est ça qui paraît un peu fou, comme Mélina avait du mal à réaliser son verdict. Les filles avec qui on est encore en contact, qui vivent encore au sein de l'État islamique en Syrie, quand on leur dit ce qui va leur arriver, voilà, qu'aujourd'hui elles sont criminalisées, qu'elles risquent des peines plus légères que celles des hommes, mais de plus en plus lourdes, notamment maintenant il y a les assises depuis mi-2016, et des assises lourdes en matière de terrorisme jusqu'à 30 ans, elles nous disent « mais pourquoi je n'ai rien fait ?» Et cette phrase-là revient à chaque fois, je n'ai rien fait.
Ça veut dire qu'elles préfèrent rester pour l'instant planquées là où elles sont, plutôt que, comme l'ont fait certains d'ailleurs, y compris certains hommes, essayer de rejoindre la frontière turque et faire de son mieux pour rentrer en France, y compris pour être jugées en France. Elles font un autre choix ou pas?
Elles font le choix de continuer effectivement, quitte à nous dire avec fierté pour certaines qu'elles portent une ceinture d'explosifs et qu'elles n'hésiteront pas à s'en servir. Et elles font le choix de rester avec leurs enfants. La peur de la séparation avec leurs enfants quand elles vont arriver en France est quelque chose d'extrêmement prégnant, comme on l'a vu, comme le décrivait Sophie Parmentier au procès de Mélina Bouguédir. C'est une peur qu'elles ont toutes. Elles ont 2-3 enfants. Elles vivent en permanence avec ces enfants collés à elles, parce qu'elles ne sont pas scolarisées. Et du coup, cette séparation, cette rupture du cordon, leur est vraiment impensable.
Edith, une dernière question. Est-ce qu'on sait combien il y a de Mélina Bouguédir, là, en ce moment, qui attendent de subir peut-être le même sort ou un sort différent, en tout cas d'être jugée?
Alors, en Syrie, elle serait à peu près... il y aurait une 60aine d'adultes, en majorité des femmes, et une 30aine d'enfants. Le problème, c'est, voilà, en Syrie, au sein du groupe de la région dominée par les Kurdes, qui va les juger, comment ça va se passer, vu que ce n'est pas un État reconnu. Et en Irak, officiellement, selon les autorités françaises, il serait 4, dont 3 Français, dont 3 femmes. Mais les Irakiens parlent de beaucoup plus. Eux, les chiffres locaux, c'est 18, dont 6 femmes. La différence peut-être tiendrait entre ceux qui ne se déclarent pas français, donc qui ne veulent pas rentrer.
Edith Bouvier, merci beaucoup. Je rappelle que vous avez écrit avec Céline Martelet un parfum de djihad. Qui sont ces Françaises qui ont rejoint une organisation terroriste? C'est publié chez Plomb Actualité. Sophie Parmentier qui est avec vous, qu'on vous salue aussi. Merci beaucoup Sophie, merci à Philippe Sens qui était assis sur les genoux d'Antoine Gignot à Londres. Merci à tous.
France Inter, Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde, c'est Sous les radars avec Frédéric Mettezo, Grégory Phillips et Le Monde selon Trump. Le tweet du jour, sans doute en ce 500e jour de présidence, un auto-pardon, vous verrez ça dans un instant. Et puis très vite, Le Monde à l'envers. Bonsoir Jean-Marc Four.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Migrants partout en Europe ce soir encore, mais un problème qu'on ne prend pas par le bon bout.
Et si on regardait le sujet du point de vue de l'Afrique?
Allez, le tour de la planète continue avec les Kings, Sunny Afternoon sur France Inter, britannique et vintage.
Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon. My girlfriend's run off with my car and gone back to her mom and pa, telling tales of
drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon.
L'après-midi était sunny, nous aussi, même si les orages arrivent, parce qu'après tout, il n'y a pas de fenêtre dans le studio, tiens.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Frédéric Mettezo, hélas, sous les radars, on commence, Frédéric, avec une addition, un de plus en Europe alors.
Oui, après l'Italie ou l'Autriche, un candidat xénophobe et démagogue arrive en tête en Slovénie. Élection législative slovène, hier, le parti de l'ex-premier ministre Janez Janša a recueilli 25% des voix. Après une campagne, vous allez l'entendre, axée sur la question migratoire.
Ceux qui se plaignent dans le nord de l'Europe que la Slovénie ne fait pas suffisamment preuve de solidarité ne font pas bien la différence entre les réfugiés et les migrants illégaux, entre ceux qui fuient la mort ou la persécution politique et ceux qui ne cherchent qu'à tirer des bénéfices des systèmes européens prospères. Quiconque échoue à saisir cela en mettant tout le monde dans le même panier échoue à voir le vrai problème auquel l'Europe est aujourd'hui confrontée.
Janez Janša sur RFI, ce proche du Hongrois Viktor Orban. Écoutez, il a eu un parcours chaotique. En 94, il est ministre de la Défense, mais il doit démissionner après que les services de la sécurité de son ministère ont tabassé l'un de ses anciens collaborateurs en pleine rue. En 2014, il est condamné à 2 ans de prison pour financement occulte de son parti, parti qu'il continue à diriger officieusement depuis sa geôle. Mais le jugement est annulé et 5 ans après, le voilà donc en tête des législatives, mais sans majorité absolue. Précisons-le, des négociations serrées vont avoir lieu.
À Gaza, Frédéric, les manifestations anti-israéliennes ne cessent pas et la rue palestinienne s'est trouvée une nouvelle martyre.
Razan El Nadjar, elle avait 21 ans, elle a été enterrée avant-hier à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Cette jeune infirmière était secouriste volontaire, une balle israélienne l'a fauchée dans son uniforme blanc pendant une manifestation alors qu'elle soignait un homme blessé à terre. À la télévision, sa mère brandit du coton et des compresses.
Voilà l'arme de ma fille. Elle est là. Elle résistait avec ça. Pourquoi le soldat l'a-t-il tuée ? Elle a été prise pour cible depuis le premier jour des manifestations. Elle a survécu plusieurs fois. Elle me racontait les attaques qu'elle subissait.
Les personnels médicaux ne sont pas une cible, rappelle l'envoyé spécial de l'ONU sur place. Désormais, Razan El Nadjar est devenue une image de propagande. On voit sa photo sur des cerfs-volants lestés de cocktails Molotov envoyés par des Palestiniens vers le territoire israélien. À Gaza, toujours sous contrôle du mouvement terroriste Hamas, 124 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne depuis 2 mois.
Et puis, Frédéric, bienvenue dans l'impossible alors.
Bienvenue dans l'impossible, c'est la devise des Golden Knights de Las Vegas, une équipe de hockey sur glace qui dispute ce soir la finale du championnat nord-américain face aux Capitals de Washington. Et l'impossible, il a déjà été réalisé, car c'est leur toute première saison. Au début de la saison, ils étaient donnés à 300 contre 1 pour se qualifier en finale. Mais le championnat a débuté dans les pires conditions pour eux, avec la fusillade de l'hôtel Mandalay, 58 morts le 1er octobre. Immédiatement, les Knights ont fédéré cette ville réputée bling-bling et superficielle, connue pour ses casinos, ses spectacles pailletés et ses combats de boxe. L'hymne des hockeyeurs est un peu devenu l'hymne de Vegas. Voilà, la finale
Let's go, go
se
the
joue.
Night, pardon, hein,
voilà.
Mais
puis ça reste. Voilà. Hein.
Oui, ça reste. Et puis oui.
Vous l'avez pour toute la soirée voilà. Maintenant. Alors la finale, elle se joue en 8 manches. Ce soir, c'est le 4e match. Vegas est mené 2-1, donc rien n'est perdu et l'impossible reste possible.
Voilà, ce qui est impossible mais possible, c'est quand même de faire du hockey sur glace à Las Vegas, où il fait donc 50 degrés, à peu près 11 moins sur 12.
Il faut bien isoler.
Voilà, déjà la personne qui a eu l'idée, on lui tire notre chapeau, parce qu'il fallait vraiment la voir. Merci beaucoup Frédéric Mettezo.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Allez, le feuilleton du lundi, Le Monde selon Trump, saison 2 et Grégory Philips. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Eh ben, joyeux anniversaire Grégory alors. Ça fait 500 jours que votre président est à la Maison Blanche, toutes mes félicitations. Et pour marquer cet anniversaire, un tweet étonnant comme d'habitude, qui, je vais appeler ça un auto-tweet en fait, d'une certaine façon, de la part de Donald Trump, Grégory.
Oui, parce qu'il envisage de s'auto-gracier dans le cadre de l'enquête russe. Vous savez que depuis des mois, c'est le sujet qui met Trump hors de lui. Et donc ce matin encore, Donald Trump, dans un message matutinal, dénonce la chasse aux sorcières dont il est victime de la part du procureur spécial Robert Mueller, procureur indépendant nommé pour voir s'il y a eu ou non collusion entre l'équipe de campagne de Trump et des agents russes. Et donc le 45e président des États-Unis écrit aussi qu'il a le droit absolu de s'accorder à lui-même la grâce présidentielle. Mais pourquoi le ferais-je alors que je n'ai rien à me reprocher, poursuit Trump, qui affirme aussi que l'enquête du procureur Mueller est, je cite, anticonstitutionnelle. Alors, deux choses à retenir ce soir, Fabienne. D'abord, il y a maintenant un débat ici aux États-Unis entre juristes pour savoir si effectivement le président peut s'auto-gracier. Ensuite, eh bien, ces nouveaux tweets mettent encore un peu plus de pression sur le procureur qui sait qu'à tout moment, Trump peut être tenté de le dessaisir.
Allez, Grégory, dans Trump saison 2, l'épisode prochain se fera un petit peu loin des bases, si je puis dire, puisque vous serez à Singapour pour nous faire vivre le sommet entre Trump et Kim Jong-un. J'imagine que ça se prépare déjà.
Oui, évidemment, ça se prépare sur place. Ici aussi à Washington, 382 journalistes accrédités par la Maison Blanche, plus des centaines d'autres qui viendront assister au sommet mardi prochain. Pour l'instant, on ne sait pas encore trop ce qui pourra être annoncé au-delà de la poignée de main, sans doute entre les deux hommes. Kim Jong-un va-t-il s'engager à une totale dénucléarisation de son pays, à un accord de paix avec la Corée du Sud, pourquoi pas, ou bien, comme le pense la CIA, à l'ouverture d'une franchise McDonald's à Pyongyang. Oui, on en est là quand même. Tout ça reste assez flou. Et quand la semaine passée à la Maison-Blanche, Trump a reçu des mains du général nord-coréen Kim Jong-chol une lettre signée du dirigeant Kim Jong-un, eh bien c'était encore un peu plus flou. Écoutez.
On m'a donné cette lettre écrite par Kim Jong-un. Et cette lettre était très gentille. Un courrier très intéressant. D'ailleurs, il faudrait que je vous en donne une copie.
Monsieur le Président, qu'allez-vous répondre à cette lettre? Allez-vous, vous aussi, envoyer un courrier?
Ah non, en fait, je n'ai pas encore vu cette lettre. Intentionnellement, je ne l'ai pas ouverte. Je ne voulais pas l'ouvrir en face du dirigeant nord-coréen. Je lui ai demandé, voulez-vous que je l'ouvre? Il m'a répondu que je pourrais la lire plus tard. Peut-être aurais-je une grosse surprise.
Voilà, donc c'était une lettre formidable, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne l'ai pas encore ouverte, bref.
Voilà, réponse sur le contenu, j'espère, la semaine prochaine à Singapour.
Un petit mot sur Mélania, Grégory, on savait déjà qu'elle avait disparu, elle est toujours pas réparue. Alors ça fait combien de jours qu'on n'a pas vu Mélania?
Ah bah depuis 24 jours, pas depuis le 10 mai dernier. On vient d'apprendre qu'elle n'ira pas au G7 cette fin de semaine au Québec, ni d'ailleurs à Singapour la semaine prochaine. Ça a été confirmé par les services de la Première Dame. Alors on sait que début mai, Mélania Trump avait été hospitalisée quelques jours pour un problème au rein. Mais que se passe-t-il depuis? Personne ne sait. À l'agenda officiel, elle doit normalement être aux côtés de son mari pour une cérémonie prévue ce soir à la Maison Blanche. Je vous tiendrai évidemment informé parce que je sais que c'est un dossier qui vous tient à cœur, Fabien.
S'il vous plaît, Grégory, un dernier mot sur le retour des lycéens de Parkland. Ils avaient initié la très très grande manifestation à la fin du mois de mars pour le contrôle des armes après la tuerie dans leur établissement. Évidemment qu'on s'en souvient, il y a eu 17 morts. On a reparlé de ce week-end avec une cérémonie de remise de diplôme au lycée Marjorie Stoneman Douglas.
Oui, une cérémonie évidemment très émouvante parce qu'on a beaucoup pensé aux 17 victimes de cette tuerie. Vous savez, ici aux États-Unis, ces graduation days sont toujours assez spectaculaires. Et là, les lycéens de Marjorie Stoneman Douglas, pour le discours d'ouverture, avaient invité une personnalité, en l'occurrence le présentateur vedette de NBC, Jimmy Fallon, qui leur a dit ceci.
Je voudrais vous remercier pour nous avoir montré ce qu'est l'intégrité et le courage face à une tragédie aussi terrible. Merci de nous avoir montré à moi et au monde qu'il y a de l'espoir. La plupart de ceux qui font des discours aux cérémonies de remise de diplôme parlent au futur. Vous réussirez, vous nous rendrez fiers, vous changerez le monde. La plupart de ceux qui font ces discours disent « Vous êtes le futur », mais je ne vais pas dire ça, vous n'êtes pas le futur, vous êtes le présent.
Voilà Fabienne et ces lycéens de Parkland, on n'a sans doute pas fini d'en entendre parler parce qu'ils annoncent aujourd'hui que leur mobilisation n'est pas terminée. Le 15 juin, Emma Gonzalez, David Hogg et les autres partiront à bord d'un bus pour une traversée des États-Unis. 60 jours, 75 étapes pour réclamer plus de contrôle sur les armes à feu et évidemment remettre ce thème à l'agenda avant les élections de mi-mandat au mois de novembre.
Tiens Grégory, puisque je vous tiens, j'en profite pour vendre ce que vous allez raconter tout à l'heure dans le journal de 19h chez Sébastien Paour.
une histoire de gâteau, de mariage, le mariage de deux hommes. La Cour suprême des États-Unis vient de donner raison au pâtissier qui avait refusé de préparer ce gâteau pour des motifs religieux.
Voilà, ça avait été une très très grosse affaire qui trouve son épilogue et un drôle d'épilogue, vous nous le raconterez tout à l'heure. Merci beaucoup Grégory Philips. Le Monde selon Trump, saison 2, c'est tous les lundis.
Le 18-20, Fabienne Saintès sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, la question des réfugiés et des migrants, toujours au cœur de l'agenda européen avec une nouvelle réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union. C'est prévu demain, le tout sur fond d'un nouveau naufrage qui a eu lieu ce week-end en Méditerranée, j'ai envie de dire décidément. Et dans votre monde à l'envers, Jean-Marc, ce soir, vous nous dites que l'Europe ne prend peut-être pas le sujet par le bon bout. Il faudrait même inverser intégralement la perspective.
Tenez Fabienne, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est un morceau de sucre. Voilà, je vous le donne à plat. Voilà, vous l'avez. Je suis ce petit morceau parce que je suis sûr que vous vous souvenez de cette publicité. Vous savez, avec ces morceaux de sucre qui, comme des dominos, se faisaient tomber les uns les autres dans une sorte d'effet en chaîne un peu interminable. Voilà, vous vous souvenez. Bon, eh bien, dans le dossier migratoire, on se contente uniquement d'essayer d'empêcher la chute des derniers morceaux de sucre en bout de chaîne. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Prenons effectivement l'éphéméride de cette semaine sur la question migratoire. Trois faits s'y rattachent directement. Le premier, vous le citiez, c'est donc ce nouveau naufrage au large de la Tunisie hier matin. 48 morts en quelques heures pour la plupart des Tunisiens, mais il y avait aussi à bord de l'embarcation des Maliens, des Camerounais, des Ivoiriens, bref, des Africains. Le phénomène migratoire s'était ralenti à la fin de l'année dernière, en 2017. Il reprend, il y a déjà 666 morts depuis le début de l'année 2018 en Méditerranée. Deuxième fait, la poussée politique des partis nationalistes se poursuit en Europe. Frédéric Mettezo le soulignait tout à l'heure. Après l'Autriche, l'Italie, la Hongrie, voici donc la Slovénie. Le parti arrivé en tête du scrutin hier est ouvertement anti-immigré. Il aura du mal à former une coalition, mais il est arrivé quand même assez nettement en tête. Et quant à l'Italien Matteo Salvini, patron de la Ligue, la Ligue est désormais ministre de l'Intérieur en Italie. Il s'exclame donc « Per i clandestini e finita la pacchia » pour les clandestins, c'est fini le bon temps. Troisième événement, demain, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se réunissent à Luxembourg. Ils veulent faire évoluer le règlement de Dublin qui contraint les réfugiés, vous le savez, à déposer leur demande d'asile dans le pays où ils ont débarqué. Et c'est souvent l'Italie, hein, 700 000 arrivés sur son sol depuis 5 ans. Mais cette évolution du règlement de Dublin s'annonce longue et compliquée. Eh bien, ces trois faits sont tous des morceaux de sucre de la fin de l'effet en chaîne. Ce sont des conséquences, pas des causes.
Donc, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'il faut regarder en amont, c'est-à-dire en Afrique.
Exactement. Inverser la perspective, c'est regarder le sujet non pas du point de vue de l'Europe, mais du point de vue de l'Afrique. Si vous voulez, tant que le pouvoir d'attraction de l'Europe sera, pour de nombreux Africains, supérieur au pouvoir d'attraction de leur propre pays, le phénomène va continuer. Ou plutôt, d'ailleurs non, il ne va pas continuer, il va s'amplifier. Pourquoi ? Pour des raisons démographiques. Parce que d'ici 2050, l'Afrique comptera 25% de la population de la planète, 2,5 milliards d'habitants, c'est deux fois plus qu'aujourd'hui. La semaine dernière, lors d'une conférence à Paris, le milliardaire américain d'origine hongroise, George Soros, a développé une idée intéressante sur le sujet. Il est souvent caricaturé par les extrêmes droites européennes comme étant le promoteur de l'immigration. En fait, son propos est différent. Il préconise un changement de braquet complet sur le développement économique du continent africain. L'aide au développement, comme on la pratique depuis environ un demi-siècle, est en fait inefficace. Soit, on le sait, elle va dans la poche d'élites corrompues, soit elle fabrique un embryon de classe moyenne en Afrique, qui précisément vont vouloir émigrer. Donc, l'idée de Soros est d'une toute autre nature. Un gigantesque, mais alors vraiment gigantesque plan d'investissement pour les pays africains, en particulier ceux qui présentent des garanties démocratiques. C'est-à-dire 30 milliards d'euros par an pendant des années et des années. Et l'Europe, dit Soros, pourrait parfaitement emprunter à taux très bas sur les marchés pour financer un tel plan qui permettrait un vrai décollage économique africain en aidant surtout les micro-projets d'économie locale. D'ailleurs, cette idée de soutenir les micro-projets d'économie locale, elle était déjà présente dans le discours, il y a quelques mois, d'Emmanuel Macron à Ouagadougou. Vous vous en souvenez peut-être. L'enjeu, c'est en fait de créer, si ces élites doivent rester en Afrique, c'est de créer 450 millions d'emplois en Afrique d'ici 2050. C'est ce dont le continent aura besoin. Et aujourd'hui, le continent ne semble capable d'en créer que 100 millions. À court terme, évidemment, pas de miracle, ce processus accroîtrait le phénomène migratoire. Mais à moyen terme, il pourrait l'enrayer avec des élites africaines enfin désireuses de rester chez elles. Et là, on se placerait enfin au démarrage de l'effet en chaîne, au premier morceau de sucre, si vous voulez.
Voilà, en même temps, on a un peu l'impression que tout ça, c'est assez utopique quand même.
C'est vrai, et c'est pour ça que le plus probable, c'est la poursuite des effets en chaîne. Nouvelle vague d'immigration toujours plus massive, nouvelle poussée nationaliste en Europe toujours plus forte, nouvelle gestion politique à court terme par l'Union européenne avec à la clé. Cerise sur le gâteau, si je puis dire, ce que George Soros appelle des « dirty deals », des accords sales avec les dictateurs africains. On les tolère à condition qu'ils luttent contre le départ des migrants de leur sol. Et ça, ça s'appelle de la stratégie à courte vue.
Jean-Marc Four, dans Un jour dans le monde, merci beaucoup. À demain, le 18-20 de France Inter continue avec le journal de Sébastien Paour. Et puis, le téléphone sonne, à tout de suite, ne changez rien. On se retrouve après ce message à caractère promotionnel.